Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Sauvage et nous allons parler de HOP. Bonjour Samuel.
Bonjour Anne.
Je vais te laisser nous expliquer ce que c'est que HOP et ce que vous faites. Donc HOP, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors HOP, c'est un peu un cri, le fait de dire « allez ». Allez hop, on y va, on change les choses, allez hop, il y en a marre d'un certain modèle de société, mais c'est aussi un acronyme, HOP, c'est HALT à l'obsolescence programmée, donc H-O-P, et comme notre nom l'indique, on lutte contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Alors c'est parfois un grand mot comme ça, obsolescence programmée, mais c'est tout simplement ce qu'on expérimente très fréquemment en tant que consommateur, le fait que les produits ne sont pas conçus pour durer. Donc on se retrouve avec des produits qui nous lâchent en cours de route, on se demande s'ils ont été conçus pour durer, effectivement. Et donc cette association HOP, elle a été créée en 2015. On dénonce les pratiques d'obsolescence programmée et en même temps, on promeut toutes les alternatives, toutes les solutions pour dire, voilà, les produits peuvent durer plus longtemps. Ça dépend du consommateur, ça dépend de l'État, ça dépend des entreprises. Donc, il y a plusieurs leviers de propositions. Hein, j'espère qu'on pourra en parler aujourd'hui.
Oui,
et
oui,
donc, ça fait un champ d'action assez large puisque finalement, on va parler de tout type de produits, de vos équipements électroniques, mais aussi de vos vêtements, de vos voitures, de votre électroménager, etc. Et toutes les solutions qui peuvent permettre d'allonger leur durée de vie. Donc, ça fait effectivement un champ assez large. Ça fait du travail pour notre association.
Voilà. D'autant plus que si j'ai bien compris, dans l'obsolescence programmée, il y a l'obsolescence, donc le fait que les produits pourraient durer plus longtemps. Et donc, il y aurait beaucoup d'avantages à ça. Tu vas nous en parler plus en détail. Mais il y a un autre volet qui est encore plus problématique, c'est le mot « programmé ». C'est-à-dire que pour certains produits, ils ont volontairement été conçus pour ne pas durer, pour inciter le consommateur à consommer, à racheter un produit plutôt que prévu. C'est là où on comprend qu'il y a un vrai gros problème, quoi, quand même.
Oui, cette notion de « programmé », elle est au cœur de beaucoup de débats qui sont globalement tranchés par le fait que la loi en 2015 en France, elle reconnaît l'obsolescence programmée, elle reconnaît qu'il y a un délit. Donc on est le seul pays dans le monde qui a ce délit d'obsolescence programmée. C'est un délit qui est d'ailleurs passible, c'est au pénal, donc d'emprisonnement jusqu'à 2 ans de prison, 300 000 euros d'amende, ou ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise condamnée. Donc la loi, elle reconnaît cette obsolescence programmée, elle en donne une définition. Elle dit que c'est toutes les pratiques qui visent à réduire délibérément la durée de vie des produits pour en augmenter le taux de renouvellement, ça veut dire pour forcer à acheter de nouveaux produits. Donc la question, c'est sur le délibérément réduire la durée de vie. Effectivement, comment est-ce qu'on peut prouver cette réduction délibérée de la durée de vie ? Alors il y a eu historiquement des cas. Le cas un petit peu connu, historique, c'est celui de l'ampoule avec le cartel qu'il y avait eu en début de siècle où les fabricants s'étaient entendus pour réduire la durée de vie des ampoules. Donc là, on avait vraiment cette décision des entreprises qui avaient décidé d'un certain nombre d'heures. On a des cas également comme celui des imprimantes sur lequel nous on a porté plainte auprès d'Epson où effectivement il y a une puce qui compte le nombre d'impressions et donc à partir de laquelle qui invite le consommateur, qui pousse le consommateur à jeter son imprimante parce qu'elle ne fonctionne plus. On a des cas comme ça où l'aspect programmé il apparaît dans son sens premier. Mais nous, on veut pas rester au côté programmé comme si à chaque fois il y avait un ingénieur qui met une pièce qui va casser à tel moment, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. Ça, c'est très très rare finalement. L'essentiel de l'obsolescence programmée, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a 3 types globalement d'obsolescence. Il y a des aspects techniques où certes il y a des pièces, mais qui sont globalement pas assez robustes. Donc, c'est fait exprès que la pièce soit mise à un endroit où ça va être fragile, près d'une source de chaleur, etc. C'est une pièce en plastique. Donc, c'est une pièce peu robuste. Ou alors, dans les questions techniques, il y a la partie réparabilité. C'est-à-dire, bien souvent, on voit que le produit, il est conçu pour être difficilement réparable. Donc, c'est pas vraiment que le produit, il est conçu pour être cassé, mais il est conçu pour que ce soit difficile d'être réparé. Et qui dit difficile d'être réparé, dit que ça va être jeté et puis on va en acheter un autre. Après, il y a un autre type d'obsolescence, c'est le logiciel. Alors, on pourra peut-être en reparler, mais c'est toutes les manières qu'ont les, à travers les applications, les logiciels, d'interférer sur notre appareil. Et donc, quand on a toujours des applications plus gourmandes, plus grosses, qui vont faire dysfonctionner notre téléphone ou notre ordinateur, quand on a des problèmes de compatibilité, etc., là aussi, on a un problème d'obsolescence, c'est-à-dire qu'après coup, notre appareil pourrait encore marcher, mais vu tous les nouveaux logiciels qu'on nous force à mettre, eh bien, on est amené à changer d'appareil. Et puis, il y a un dernier type d'obsolescence, qui est encore moins, on va dire, programmé au sens strict, mais qui quand même est très important, c'est tout ce qui est esthétique, tout ce qui est culturel, c'est les phénomènes de mode. Donc derrière ça, on a le fait de, on vous vend un appareil, mais on vous pilonne, on vous martèle qu'il y a un nouveau modèle qui est beaucoup plus performant, et finalement ça fonctionne et ça pousse les consommateurs à se débarrasser d'un objet qui marche encore, qui répond encore à son besoin, mais voilà, il croit que c'est pas le dernier objet à avoir. Et donc, ces 3 types d'obsolescence, souvent, ils se complètent, ils sont plus ou moins subtils, plus ou moins cachés. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Le consommateur, il renouvelle trop tôt son achat, il crée un déchet beaucoup trop tôt, il a extrait des ressources naturelles inutilement, et donc, ce système-là, il peut pas perdurer.
Et alors, OPS a été créé quand, comment?
Alors, on s'est créé en 2015. On était 5 cofondateurs au départ. Une personne qui est particulièrement à l'origine, c'est Laetitia Vasseur, qui est actuellement directrice de l'association. Et donc, Laetitia et moi, on est restés un binôme finalement assez stable pour pousser l'association vers son développement. Et globalement, bah, comme beaucoup d'associations, finalement, on était des personnes qui se connaissaient, qui étaient amis ou qui, en tout cas, partageaient ces intérêts communs. Il y en avait plusieurs qui étaient engagés au niveau politique, on va dire, d'autres plus associatifs, mais il y avait des réflexions communes sur une économie qui doit être plus respectueuse de l'environnement. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a toujours poussé, c'est comment est-ce qu'on change l'économie pour préserver la vie sur Terre des humains, sur cette planète qui n'a pas forcément besoin de nous, mais qui, en tout cas, nous, on a besoin d'elle. On a réuni nos forces comme ça. Au départ, on s'est dit, on va faire une petite asso, notamment pour porter plainte, c'est-à-dire on avait poussé pour qu'il y ait le délit d'obsolescence programmée, mais après ce délit, eh bien, qui va porter plainte là-dessus? Qui va le faire vivre? On sait qu'il y a beaucoup de lois qui restent lettre morte, donc il y a besoin de société civile pour derrière activer les choses. Et c'est ce qu'on s'est dit, on peut déjà se constituer en tant qu'association comme ça, sans penser qu'on allait se développer, créer des emplois, avoir des locaux, etc., comme c'est le cas maintenant. On n'avait pas idée que ça se développerait de cette manière. Mais voilà, c'est ce qui est joli dans ces aventures, c'est qu'on se laisse après saisir par des opportunités. On voit que ça prend bien, et c'est peut-être la première chose, c'est que dès qu'on a créé l'association, eh bien, il y a eu un intérêt des médias, un intérêt des citoyens. Et donc, rapidement, on a vu qu'il y avait une place, finalement, pour un acteur comme Hop, un rôle à jouer. Et puis, même, oui, vraiment, je pense qu'on a cette responsabilité-là. C'est-à-dire que maintenant qu'on existe, ces enjeux sont tellement colossaux qu'on ne serait pas vraiment pas satisfait de nous-mêmes si on ne faisait pas le maximum pour allonger la durée de vie des produits, pour convaincre à tous les niveaux. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye plein de choses, avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, on s'est quand même développé et on a fait quand même pas mal de choses en 5 ans.
Et HOP, donc, c'est une association qui se veut indépendante et non partisane. Est-ce que vous êtes en réseau aussi avec d'autres associations sur les mêmes sujets à l'international ou pour l'instant, c'est vraiment vous restez entre les frontières de la France ?
Alors, on est en réseau parce que moi, je pense que bon, là, on reste une petite association face à des enjeux qui nous dépassent en grande partie. Donc, d'une part, en France, on a souvent eu des actions communes avec d'autres ONG. On a fait des choses avec les Amis de la Terre, avec Zero Waste, avec Greenpeace, etc. On a fait ça aussi avec des associations de consommateurs comme UFC Que Choisir. Donc, selon les sujets, on a des campagnes communes parce qu'on sait qu'on est plus fort quand on y va à plusieurs. C'est indispensable. Surtout qu'il y a finalement beaucoup d'associations, il y en a beaucoup qui se créent aussi tous les jours. Donc le citoyen va avoir du mal à s'y retrouver. Est-ce que tu connais un tel, et puis il y a tel asso qui fait ça aussi. Même moi, je ne les connais pas toutes. Oui. Donc forcément, à un moment, il faut donner un peu plus de clarté, avoir des campagnes communes. C'est important. Et puis ce que j'allais dire au niveau international, parce qu'on fait face aussi à un marché... qui n'est pas qu'un marché français, et donc les vendeurs en France vendent partout dans le monde. Et donc, on sent qu'on a finalement une position pivot, c'est-à-dire que HOP est une des associations les plus structurées sur le sujet de l'obsolescence programmée, dans le monde, j'ai envie de dire, même si on est petit. Et donc, finalement, on a un rôle à jouer, ce qui fait qu'on crée des liens, ils ne sont pas très formalisés, mais avec des associations au Québec, en Espagne, en Colombie, en Belgique. Donc, c'est au gré des opportunités qu'ils nous demandent conseil. On essaye de pousser leurs propositions de loi, par exemple. Au niveau européen, on essaye de travailler aussi parce que c'est quand même un élément important quand même, par rapport au marché européen. Alors, c'est dur de tout suivre, mais il y a des consortiums d'ONG, on va dire, auxquels on participe pour essayer de faire un plaidoyer commun sur certains sujets, quoi. Donc, c'est sûr, c'est important. Après, on ne peut pas forcément être sur tous les fronts au niveau mondial, mais idéalement, il faudrait le faire parce que, voilà, ces enjeux-là, ils se retrouvent partout.
Alors, lorsque l'on parle de lutter contre l'obsolescence programmée, en fait, on entend souvent parler de la partie financière, des conséquences économiques, mais il y a aussi, on en a parlé dès le début, un fort impact sur l'environnement. Et dans votre rapport de l'association HOP, dans votre rapport d'activité de 2019, vous écrivez « Alors que les ménages se voient incités à renouveler prématurément leurs biens au détriment de leur pouvoir d'achat, l'extraction de métaux, l'accumulation de déchets et l'augmentation des émissions de CO2 vont bon train. » Et vous précisez aussi que l'allongement de 50% de la durée de vie de nos produits réduirait de 77 millions de tonnes la quantité de CO2 émis par an. L'économie annuelle serait de 64 millions de tonnes pour l'industrie du textile, rien que pour l'industrie du textile, deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole. Donc ces chiffres-là, ils viennent d'où ? Ils sont établis par qui ? Est-ce qu'ils sont connus et reconnus par tout le monde ? De où sortent-ils ? Parce que c'est assez impressionnant.
Oui, ça tombe bien que la question soit posée à moi parce que c'est des travaux que j'ai conduits, donc ça tombe bien. Globalement, on a fait un... Alors, je ne sais pas si je dois répondre sur le constat global d'abord. Non, je vais d'abord répondre sur le chiffre précisément, puis on reviendra aux constats plus globaux. Sur ces chiffres-là, on a souhaité calculer quel était l'impact climatique donc en émissions de CO2, parce qu'il y a beaucoup de négociations internationales qui parlent que de CO2, et que nous, vu qu'on n'a pas objectivé le fait qu'allonger la durée de vie des produits, eh bien, ça pouvait réduire les émissions de CO2, eh bien, le thème de la durée de vie, il est absent de la plupart de ces négociations, et je trouve ça très, très dommage. Et ce calcul-là, il montre que allonger de 50%, c'est-à-dire, par exemple, si les téléphones portables durent 2 ans aujourd'hui, ça dure 23 mois, et ils duraient 3 ans, donc c'est ça, augmenter ces 50%. Donc c'est pas non plus considérable, c'est pas non plus révolutionnaire comme évolution. Eh bien, et forcément, c'est des téléphones portables qu'on fabrique en moins au niveau mondial. Et c'est pareil pour les jeans, pareil pour les armoires. Donc on a fait ça pour plusieurs catégories de biens. Et à partir de ce qui a été reconnu par l'ADEME, c'est-à-dire l'ADEME a fait, l'Agence de la transition écologique, a fait des calculs de cycle de vie des produits, c'est-à-dire pour fabriquer un smartphone, ça consomme tant de tonnes de CO2, et les tonnes de CO2, elles sont au niveau de temps, au niveau de la fabrication, puis au niveau de l'utilisation, etc. Là, dans la plupart des cas, là où il y a l'essentiel des consommations, c'est lors de la phase de fabrication et d'extraction des matières premières. Donc ça, il faut déjà le dire et le répéter. C'est là où on consomme, c'est pas quand on utilise ensuite l'appareil. En général, ça consomme pas grand-chose par rapport à tout ce qui a été nécessaire pour le fabriquer. Donc, ce qu'il faut, l'urgence environnementale pour la plupart des produits, c'est que le produit dure plus longtemps. Donc, c'est vrai aussi dans le numérique, 70% de l'empreinte carbone des équipements numériques, elle se fait lors de la phase pour la fabrication des produits. Donc, c'est là qu'il faut qu'on joue. Et donc, à partir de là, on voit ce que ça coûte de fabriquer un smartphone, selon l'ADEME. Et donc, on voit combien sont vendus en France. On en déduit que si on en fabriquait moins, parce que les produits durent plus longtemps, eh bien, ça économise tant de tonnes de CO2. Donc, c'est des calculs assez simples qui ont été faits aux Assises de la transition énergétique, d'ailleurs avec d'autres participants en 2018, et qui gagneraient à être mieux communiqués. C'est par rapport à ton autre question, c'est que non, ces chiffres ne sont pas très valorisés parce qu'ils ont été faits à un moment par un groupe, mais on n'a pas fait toute une stratégie de communication. Et c'est peut-être dommage parce qu'au fond, on se rend compte qu'on pourrait remplir les objectifs climatiques de la France avec une seule mesure d'ici 2023. Donc, c'est pas tous les objectifs à horizon 2050, mais en tout cas, une partie du chemin, on pourrait le faire en augmentant la durée de vie des produits. Et ça, ce serait génial. Pourquoi ? Parce que c'est d'une part quelque chose qui est à la fois bon pour les consommateurs, qui est à la fois bon pour l'environnement. C'est pas un sacrifice qu'on demande aux gens. On demande pas aux gens de plus prendre l'avion ou de plus manger de viande, même si par ailleurs, ça peut être positif aussi. Mais globalement, on leur demande plutôt d'avoir accès à des produits qui durent plus longtemps. Donc, je pense que ça peut être un boulevard pour les pouvoirs politiques, parce que ça touche au pouvoir d'achat, ça touche à l'environnement, mais d'une manière positive. Et ça, en même temps, ça aide à répondre aux objectifs climatiques. Donc, juste pour finir quand même le raisonnement là-dessus, une petite difficulté pour bien le prendre en compte, c'est que ces émissions-là, souvent, elles sont cachées. C'est-à-dire que c'est à l'autre bout de la planète qu'on fabrique tout ça. Donc, dans le petit bilan français, ça ne va pas toujours être calculé. Et donc, le gouvernement français va peut-être plus s'intéresser aux émissions liées au fait qu'il y a des camions sur les routes en France, plus qu'au fait qu'il y a des téléphones portables qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Mais au fond, on est sur la même planète, donc il faudrait prendre en compte l'ensemble de ces consommations. Et peut-être plus généralement, je pense que c'est hyper important de rappeler ce côté-là, la nécessité d'avoir tellement de ressources naturelles pour la fabrication de nos produits. On s'en rend pas compte, mais pour un smartphone de, je sais pas, quelques centaines de grammes, c'est 70 kilos de matières premières qui sont mobilisées. Pour un ordinateur portable, c'est 250 kilos de matières premières. Et donc, à chaque fois qu'on se rend compte que chacun de nos objets immobilise autant de ressources qui sont non renouvelables, on s'aperçoit qu'il y a un problème, notamment quand on se rend compte aussi que certains de ces métaux, ils ont en fait très peu de disponibilité. C'est dur à dire hein, combien d'années, mais globalement, sur l'argent, le zinc, un certain nombre de métaux, on est sur du 10, 20, 30 ans de disponibilité. Donc, pourquoi extraire ces ressources pour en faire des produits qui sont conçus pour ne pas durer, pour en fait ensuite devenir des déchets qu'on n'arrive pas à recycler? C'est epsilon, c'est presque rien ce qu'on arrive à recycler parce que tous ces métaux, ils sont assemblés, on n'arrive pas à les séparer. Donc, au final, on est sur un non-sens écologique et même économique à long terme, parce que finalement, à long terme, on aura besoin de ces métaux et on ne saura plus où les trouver.
Évidemment, la chose qui vient toujours à l'esprit par rapport à cette explication, parce qu'on comprend bien que tu dis que les politiques peuvent s'en emparer par rapport à tous les enjeux et à ce que ça peut aider par rapport aux problèmes auxquels on fait face actuellement, justement par rapport aux ressources, par rapport à la planète, à la pollution. On comprend en tant que consommateur ce que ça peut nous apporter aussi. Le souci, c'est les industriels, parce qu'eux répondent toujours à ça, que s'ils ont créé le système tel qu'il est actuellement, c'est parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ça sorte des usines, parce qu'il faut que l'argent rentre, donc il faut que les gens achètent pour que toutes ces industries et ces entreprises multinationales puissent continuer à faire leur beurre, pour parler en langage courant. Du coup, comment vous leur vendez ça aux industriels ? par rapport au fait que ça fait de l'argent en moins de lutter contre l'obsolescence programmée, de faire des produits qui durent plus longtemps. Et l'autre aspect financier par rapport aux consommateurs, c'est que souvent, quand on se tourne vers des choses plus durables, y compris en termes de vêtements, c'est plus cher. Alors, par rapport à ces deux axes-là, quelle réponse aujourd'hui on peut apporter et aux industriels et aux consommateurs qui voudraient bien du durable, mais qui, quelquefois, trouvent que c'est un peu cher, y compris en termes de matériel?
Non, mais c'est des questions très importantes et c'est important de prendre le temps d'y répondre. L'obsolescence programmée, elle a été développée pour faire face à un problème qui est celui de la saturation des marchés. Une fois qu'on a un lave-linge, eh bien, on n'en rachète pas un deuxième normalement. Et donc, à partir de là, forcément, le marché, quand tout le monde est équipé, eh bien, il faut pouvoir continuer à en vendre parce qu'on est dans une société de croissance qui est basée sur le fait qu'on veut vendre toujours plus. Donc, comment on vend toujours plus? À un moment, soit les gens ont plusieurs équipements, donc pour les vêtements, ça va. Et encore, du coup, on arrive à une surconsommation quand même très importante. Mais il y a rapidement le thème de rendre les produits obsolètes et qui ne vont plus fonctionner un peu plus rapidement. C'était d'ailleurs un designer qui avait une phrase assez intéressante, il s'appelle Brooks Stevens, il disait « Il faut instiller dans l'esprit du consommateur l'envie de posséder quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus neuf et un peu plus tôt que ce qui serait nécessaire. » Donc c'est vraiment essayer de raccourcir son besoin, enfin qu'il ait besoin plus vite des équipements. Et derrière ça, moi je suis économiste par ailleurs, donc je me suis intéressé quand même à qu'est-ce que ça impliquait en termes de de croissance, d'emploi. Et notamment quand on parle d'emploi, faut pas rigoler avec le sujet, quoi, parce que je n'ai pas en plus envie que la moitié de la population française se retrouve au chômage. À partir de là, il y a plusieurs réponses. Il y en a une première qui est celle au niveau français. Et c'est donc comme ça que je pense qu'on propose aux industriels de rejoindre HOP. C'est qu'au niveau français, il y a finalement le besoin, aujourd'hui, ils ont intérêt à se positionner tout de suite sur les produits durables et réparables. Ils ont intérêt pourquoi ? Parce que les consommateurs, ils ont cette attente très fortement, quasiment avec le prix. Une de leurs attentes principales, c'est celle que le produit dure longtemps. Donc, il ne faut pas rompre cette confiance qui est déjà un peu malmenée. Et donc, il faut vraiment garantir ça. Et le garantir, ça permet de le fidéliser. Donc, ils sont beaucoup d'entreprises à prendre conscience de cet élément. D'autre part, il y a aussi de plus en plus de lois et d'interdictions, donc il faut pouvoir prendre en compte aussi. Donc, ils ont intérêt à faire ça. Et puis, cette manière de fidéliser, ça permet à l'industriel de vendre d'autres produits. C'est-à-dire, certes, il aura déjà le lave-linge qui durera longtemps, mais il pensera à cette marque quand il aura besoin d'une bouilloire ou quand il aura besoin d'un frigo. Et donc, finalement, pour la marque en tant que telle, ce positionnement, il est bénéfique. Elle peut continuer à vendre et à se développer. Elle peut d'ailleurs se développer d'une autre manière, ce que font certains en vendant un service. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de louer un équipement ou de donner accès à de la réparation, par exemple, Darty récemment a proposé une offre où, en payant un certain nombre d'euros par mois, il y a la réparation incluse de tous les équipements électroménagers.
Ce qui n'est pas la même chose que les assurances, parce que là, il y a eu des abus aussi.
Oui, exactement. C'est même qui faisait des pratiques très contestables sur les extensions de garantie, parce que souvent, ils vous vendaient « Ah, vous allez avoir 5 ans de garantie en plus », mais ils oubliaient de vous dire que dans les 5 ans, vous avez déjà 2 ans de garantie légale par la loi pour tous les produits. Donc, dans les 5 ans, il ne faut pas qu'ils vendent les 2 ans. Ça, c'est normal. Donc, il y avait des abus dans cet ordre d'offres. Mais c'est même là, il y a un changement, on va dire, de mode de pensée où ils se mettent à développer des offres plus vertueuses comme celle que je disais, où on invite vraiment à réparer au maximum avec des forfaits et où là aussi, finalement, l'entreprise s'y retrouve parce que elle vend tous les mois un service, elle vend pas plus de machines, mais elle vend d'autres choses et ça continue à faire son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un positionnement qui peut être très positif pour les entreprises et même qui peut être mortifère si elles le font pas maintenant alors que leurs concurrents le font. Donc, première chose. Et puis, deuxième chose, au niveau national, qu'est-ce que ça donne après en termes d'emploi ? Il est possible que, oui, il y ait un petit peu moins de production industrielle en quantité. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a quasiment aucune production industrielle en France, déjà. Donc, globalement, l'impact, il est plutôt pour tous les biens importés. Donc, il est plutôt un impact positif sur toutes nos importations, donc notre déficit commercial. Mais au contraire, les emplois qui sont créés, ça peut être quoi ? Ça peut être des emplois de réparation en France ou en Europe, si vous voulez, donc des emplois qui doivent être de proximité, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne réparer. Ça peut être des emplois dans la relation service-client, parce que voilà, on a une location, on a un autre rapport. Et puis, ça peut aussi être des emplois où on relocalise l'industrie, c'est-à-dire qu'à un moment, on dit, maintenant, par exemple, les téléphones portables, ils vont durer 5 ans. Il y a une garantie 5 ans en France. Bon, bah, peut-être qu'à ce moment-là, ça vaut le coup d'avoir une production plus qualitative et que la main-d'œuvre française peut devenir plus compétitive. Donc, pour certaines industries, ça peut fonctionner. Donc, ça peut même créer des emplois en France. Après, au niveau mondial, c'est une autre histoire. Au niveau mondial, de toute façon, on ne peut pas continuer sur le rythme actuel de croissance matérielle qu'on a connu ces dernières dizaines d'années. Donc, il faut forcément trouver un autre modèle. Et forcément, il y a des reconversions à voir où des industries actuelles, eh bien, il faut qu'elles trouvent un rythme un peu plus modéré de production, qu'en même temps, elles se reconvertissent sur tout ce qui est réemploi, recyclage. Là aussi, il y a beaucoup d'activités à développer. Donc, à la fin, il y aura du travail. C'est juste qu'il faut arrêter d'avoir un travail où on ponctionne des ressources et où après on les met à la décharge. Il faut un travail qui s'inscrive dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qui permet de réutiliser au maximum la matière, parce que la matière, voilà, elle est sur Terre et il faut la garder utile pour nos biens et pas en faire des déchets le plus rapidement possible.
Là, on parle essentiellement de l'impact environnemental de ce sujet. Il y a aussi les impacts sociaux de cette façon de consommer, de cette façon de produire surtout.
Oui, il y a un impact social autant qu'environnemental. Alors, c'est sûr que la première entrée, souvent, elle est environnementale, mais l'impact social, il tient au fait que les premières victimes de l'obsolescence programmée sont souvent les personnes les plus défavorisées, les plus vulnérables. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'informations, elles se tournent vers du low cost, etc. Et finalement, elles se retrouvent à renouveler leurs achats très rapidement et donc à payer beaucoup plus cher que les plus riches pour des appareils de moins bonne qualité.
Et les crédits.
Avec des crédits parfois, des scandales de crédits revolving, etc. Donc, on a un problème social et en même temps un peu ambivalent, et d'ailleurs ça me permet de mieux répondre à la question aussi de tout à l'heure sur la question de est-ce qu'on a de quoi acheter des moyens d'acheter des produits plus durables. C'est que effectivement quand on regarde à long terme sur 10 ans les dépenses, on a souvent intérêt à acheter quelque chose de plus haut de gamme. Par exemple, on avait fait une enquête sur les collants, donc des femmes en général, on se rendait compte que 50% des collants, j'ai plus le chiffre exact, mais globalement, selon le sondage, filaient entre 3 et 6 utilisations. Donc globalement, on est quasiment sur du collant jetable. Mais en fait, ça coûte 10 euros à chaque fois. Donc pour le porte-monnaie, ça a quand même un impact. Et qu'il y a des gammes au-dessus qui coûtent plutôt dans les 50 euros, mais où finalement, la durée, elle est en années. Donc, assez rapidement, on se rend compte que ça vaut la peine de dépenser un peu plus pour ces objets. Cependant, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de mettre à un moment 50 euros sur ce mois-ci, parce que c'est déjà dur d'arriver à la fin du mois. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut avoir d'autres mesures. C'est pas que la responsabilité du consommateur. C'est un discours qui serait très vraiment tronqué, qui serait même culpabilisateur. Déjà parce que souvent, c'est pas facile d'avoir l'information en tant que consommateur. Il y a tellement de choses à savoir, dans quelles conditions c'est fabriqué, ça vient d'où, est-ce que c'est durable, etc., etc.
Et tous les labels aussi. Non,
donc franchement, il faut avoir un certain niveau de militantisme pour vraiment savoir quoi acheter sur chaque produit et du temps. Donc moi, le premier, je n'arrive pas à acheter les meilleurs produits parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Oui. Donc, faut essayer, mais on ne peut pas attendre du consommateur qu'il soit exemplaire sur tous les plans. Et donc, à partir de là, il faut l'aider. Et donc, il faut que le gouvernement et les pouvoirs publics l'aident financièrement, d'une part, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des taux de TVA, par exemple, réduits pour la réparation, pour les produits qui sont de seconde main, des choses comme ça. Déjà que ça soit un peu moins cher, on pourrait imaginer des taux de TVA plus faibles ou des impôts plus faibles pour les produits qui sont les plus durables, donc des choses comme ça. Peut-être qu'on peut les aider aussi en disant, bah oui, mais vous pouvez peut-être payer en plusieurs fois, avoir ce type d'offres un peu plus généralisées et transparentes, pas sous forme de piège, pour que on se rende assez vite compte que l'achat d'un produit qui va durer vraiment deux fois plus longtemps, eh bien, on peut se le permettre, le rendre accessible à tout le monde. C'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, c'est vrai que pour certains équipements, eh bien, voilà, il y a une partie des Français, des Européens, qui peuvent pas se permettre d'acheter du haut de gamme ou l'appareil plus cher. Après, je précise quand même une chose, c'est pas toujours le cas que le produit le plus durable est le plus cher. Il y a aussi des produits qui sont pas forcément plus chers et qui sont vraiment durables. Donc, mais bon, voilà, on peut pas faire de généralité. Assez souvent, faut payer un petit peu plus, mais parfois, ça vaut le coup quand même de payer 10 euros de plus pour avoir un an de plus d'utilisation. C'est parfois une différence qui est faible, d'où l'enjeu aussi de mieux informer. Alors, à partir de 2021, il y a un indice de réparabilité qui est mis en place en France sur les produits, enfin sur 5 catégories de produits, comme les ordinateurs, comme les lave-linges, etc. Et donc, cet indice-là, il va vous dire si l'appareil va être réparable, facilement réparable. Donc, c'est déjà bien, vous allez avoir une note simple. Donc, on aide déjà le consommateur là-dessus. Après, nous, ce qu'on a demandé et qui a été obtenu dans la loi d'ici 2024, c'est que ce soit aussi un indice de durabilité, c'est-à-dire vraiment, est-ce que le produit va durer longtemps, il va être robuste. Ça, c'est un peu plus dur à mesurer en avance, mais c'est pas impossible. Et donc, il faut juste s'en donner les moyens parce que une fois qu'on l'aura fait, eh bien, le consommateur, il aura plus d'outils. Aujourd'hui, bon, il va sur le site de Hop, il va sur le site qu'on a développé aussi, produitsdurables.fr, et encore s'il connaît. Et bon, il peut avoir quelques informations comme ça, mais c'est pas toujours consolidé. Il faudrait que les pouvoirs publics s'y mettent parce que derrière, c'est moins de déchets, c'est moins de ressources extraites, c'est du pouvoir d'achat qui est sauvé. Donc, ça vaut la peine de mettre un petit peu les moyens de cette politique publique.
C'est la fin de cette première partie de l'interview de Samuel Sauvage pour parler de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode. À très vite. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.